menace existentielle pour les États-Unis, Cuba?
De fait, non.
Il n'y a plus de missiles depuis 62.
Tout à fait.
Fameux missile russe.
Fameux missile qui, à l'époque, en fait, Cuba, disons, l'endroit le plus. Qui cristallisait le moment le plus grave de la guerre froide. Mais depuis ce moment-là, Cuba n'a plus jamais représenté de menace, ni pour la sécurité intérieure des États-Unis, ni pour la sécurité mondiale.
Alors, on va évoquer.
Pandémie de coronavirus, Cuba est entrée dans une période de grave crise économique. Mais depuis l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro le 3 janvier dernier, la situation s'est considérablement aggravée. Jusqu'ici, le Venezuela approvisionnait l'île en pétrole. Désormais, plus aucun baril n'entre sur le sol cubain. Le 4 janvier, Donald Trump se réjouissait déjà.
Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they can hold up. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela.
Le président cubain Miguel Díaz-Canel a alors réaffirmé la souveraineté de son pays.
No tiene que hacer ninguna concesión política.
Mais le régime peut-il vraiment tenir? La pénurie d'essence met Cuba à l'arrêt.
Ah, no tenemos. Si empezamos a trabajar a las 9 de la mañana, a las 12 del día tenemos que cerrar ya porque no hay mercancía. No hay vianda, no hay petróleo para traer.
Le secteur touristique est moribond, les coupures de courant se multiplient.
Por suerte, tenemos algunas lámparas recargables, ventiladores recargables.
L'inflation explose, les médicaments et la nourriture viennent à manquer. Ces derniers jours, Donald Trump a remis la pression, samedi 7 mars tout d'abord.
Cuba is at the end of the line. They're very much at the end of the line.
Puis avec un ton quasi martial, ce lundi 9 mars.
Maybe a friendly takeover, it may not be a friendly takeover, it wouldn't matter. They're in deep trouble on a humanitarian basis.
De votre côté, Christophe Ventura, vous posez la question. Envisage-t-il d'enlever le président Díaz-Canel pour mettre Cuba sous tutelle avant de convertir l'île en Nouvelle-Floride avec ses rivieras, ses hôtels de luxe et ses golfs?
Diplomatique dans l'article que je consacre à Cuba, un peu, j'ai envie de dire, du deuxième degré. C'était un peu une manière de prendre les choses de manière humoristique, entre guillemets. Pourquoi? Parce que, évidemment, le projet, s'il y en a un de l'administration américaine, on a beaucoup vu Donald Trump à juste titre, mais Marco Rubio, son secrétaire d'État cubano,
qui est américain, d'origine cubaine.
Voilà, enfin, qui est d'origine cubaine, dont les parents étaient cubains et qui ont quitté en fait Cuba avant la révolution de 59. Lui a un vrai agenda pour Cuba, c'est manifestement l'homme qui, disons, définit la stratégie et convainc le président de faire ce qui se passe actuellement. Le projet, c'est fondamentalement, probablement, peut-être de maintenir le pouvoir en place, un peu comme ils ont fait au Venezuela, mais sous une forme, disons, une forme de tutelle, une forme de protectorat, quelque part, où il pourrait y avoir, dans le meilleur des cas, un pouvoir qu'il tolérerait, qui continuerait d'avoir le droit d'avoir le pouvoir un certain temps, pour transformer le pays, en ce que j'essaie d'expliquer, parce que je crois que c'est ça le fond du projet, c'est de faire redevenir Cuba ce qu'elle fut.
Sous Batista.
Sous Batista. Alors, je ne parle pas avant de régime Raoul, politique avant encore, mais en tout cas, disons, cette riviera où allait la bonne société américaine pour se divertir, etc. Et de revenir à ce qu'a été Cuba avant la révolution de 59. Je pense que c'est tout ça que veut, disons, éradiquer l'administration américaine. Et c'est le vrai projet.
Et cette transition, tellement avec le petit-fils de Raoul Castro, c'est ça? Raoul Guillermo Castro, dont il dit qu'il n'est pas un peu corrompu, qu'il aime les affairistes.
Alors effectivement, c'est un peu ce qui circule dans, disons, les discussions, les conversations, les boucles, les médias américains. La presse cubaine de Miami, qui est très anti, évidemment, la Havane, qui, disons, beaucoup développe ce scénario. Aujourd'hui, très honnêtement, je crois que c'est une boîte noire, personne ne le sait vraiment. Ce qui se passe au sein du gouvernement et des autorités cubaines, c'est une discussion manifestement entre ceux qui seraient prêts à accéder aux demandes américaines en matière d'ouverture de libéralisation économique et ceux qui ne voudraient pas que cette libéralisation, eh bien, engage une autre libéralisation qui est celle du système politique qu'ils veulent absolument conserver.
Et de leur et point les tensions de vue, une trahison de ce système originellement marxiste-léniniste,
absolument.
Etc. Mais du coup, les Cubains sont pris en otage. La situation est quand même désespérée, non? Alors, depuis que Nicolas Maduro a été enlevé, il n'y a plus de pétrole, le robinet est fermé, il n'y a plus rien à manger, l'électricité, il y a des coupes, on a vu. C'est quoi la vie à Cuba? C'est un supplice. Et on les voit fatalistes, les Cubains qui réagissent.
Bien sûr, parce que ce que vous décrivez, c'est tout simplement une situation où le pays, depuis l'après-Covid-19, donc depuis 2022-2023, vit tout simplement la pire crise que le pays a connue depuis 1959. Enfin, pas seulement depuis la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique, mais depuis 1959, le pays n'a jamais été aussi mal du point de vue économique et social. Et c'est vrai que tout ce que vous dites se confirme, d'autant plus que nous parlons d'un pays qui importe, bon gré mal gré comme il peut, en bricolant, si je puis dire, et en contournant l'embargo américain qui est l'un des plus vieux de la planète.
Il apporte 80% de son alimentation.
Ah oui, 80%, ça. Et puis aussi les équipements qu'ils ont. Ils ont par exemple un peu de photovoltaïque qui vient de Chine pour compenser le pétrole, mais c'est pas suffisant. Mais tout ça, ils doivent l'importer, et ils l'emportaient en contournant l'embargo américain qui pèse sur le pays depuis 62. Et donc, ce pays, aujourd'hui, il est dépendant de l'extérieur, mais la situation...
Ce pays est exsangue intérieurement, c'est ça.
Oui, et en plus, la nouvelle stratégie de Trump et de Rubio, c'est vraiment de mettre une corde au cou de Cuba et de serrer le nœud en fonction de ce qu'ils attendent sur place.
Alors, Christophe Ventura, évoqué avec vous et avec Anna, le tourisme, ce qui se passe pour le tourisme, qui est la deuxième ressource économique de Cuba.
Oui, depuis l'arrêt des livraisons de pétrole vénézuélien, les stocks de kérosène diminuent dangereusement, à tel point que les autorités aéroportuaires cubaines ont dû informer toutes les compagnies aériennes qu'il n'y aurait pas de ravitaillement en carburant, et cela jusqu'au 10 avril. Air France, qui dessert donc Cuba trois fois par semaine, a annoncé la fin de ses vols dès le 29 mars, et au moins jusqu'à la mi-juin, et avant elle, trois compagnies canadiennes et deux russes avaient fait de même. En France, l'agence de voyage Havana Tour, qui est spécialiste de Cuba depuis plus de 30 ans, a été obligé de mettre la clé sous la porte au mois de janvier à cause d'une baisse de la fréquentation ces dernières années. Regardez, en 2016, Cuba enregistrait un record avec 4 millions de touristes étrangers. En 2025, ils étaient moins de 2 millions. Alors on le voit, plus de vols commerciaux, moins de touristes étrangers. Est-ce que Cuba est en train d'être coupé du reste du monde ?
De fait, oui. Embargo, je viens d'en parler, financier, économique, etc. Plus maintenant, des mesures qui amènent à ce que le tourisme s'assèche définitivement. C'était déjà mal parti depuis les chiffres que vous avez donnés, puisque après il y a eu le Covid, et depuis le Covid, le tourisme ne repart pas à Cuba. Or, le pays a basé sa tentative de relance du modèle économique cubain par le tourisme, donc ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, Trump a très bien compris comment faire pour que tout ce que vous décriviez advienne, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, le tourisme s'épuise, et le tourisme, ça veut dire des devises qui ne rentrent plus dans le pays.
Il ne faut pas oublier non plus que c'est un pouvoir quand même autocratique et répressif. 46 personnes au moins sont mortes en prison pour avoir manifesté en 2021.
Oui, bien sûr, ça a été les manifestations les plus importantes, en fait.
Très grande manifestation contre le pouvoir cubain. Hein.
Tout à fait, qui était en 2021 et que le gouvernement cubain a décidé de gérer par une répression probablement assez inutile, d'ailleurs, parce que les demandes de cette population étaient d'abord sociales. Et donc, effectivement, vous êtes dans un pays autoritaire, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais dont les politiques américaines ne font que radicaliser l'autoritarisme. Et c'est ça le cercle, disons, vicieux, dans lequel ce pays est aujourd'hui.
Christophe Ventura, à Cuba, depuis des décennies, les gens vont à l'université, il y a une scolarité, il y a toujours eu une scolarité forte, et il y a beaucoup de médecins. Et il y a un projet de faire venir en France des médecins cubains. Vous êtes au courant de ça, évidemment. Où est-ce qu'il en est, ce projet ? Les deux pays discutent.
Je crois qu'il y a des discussions au moment où on parle nous-mêmes, d'ailleurs. Il y a des discussions, parce que le problème, c'est aussi que pour les pays qui font ça, il y a des pressions, encore une fois, américaines. Je suis désolé d'y revenir. Mais les pressions les Américains demandent aux pays qui ont ce type de coopération avec Cuba de ne plus les avoir. En Amérique latine, il y a déjà 4 pays qui ont arrêté ces programmes. Et ça paraît un peu cocasse, mais c'est vrai qu'en Europe, toujours après le Covid-19, et quand on a vu l'incapacité des systèmes sanitaires européens à faire face aux épidémies, etc., plus conjugué à cela la question des déserts médicaux dans nos pays,
eh bien, certains,
comme la France, mais d'abord l'Italie, qui a été pionnière là-dedans, a mis en place avec la diplomatie cubaine ce type de conventions qui sont en fait des prestations de services médicaux que Cuba envoie. Ils disent avoir eu des interventions dans plus de 160 de pays dans le monde, et donc la France est concernée. Je crois qu'on parle de plusieurs dizaines et peut-être même un peu plus d'une centaine de médecins
cubains
qui devaient arriver dans nos déserts médicaux.
Une dernière question sur Cuba, c'est quand même le cœur battant d'une culture que rien n'effacera, que ce soit la littérature, on peut parler d'Alero Carpentier, de Guillermo Cabrera Infante, de la musique cubaine, tout le monde pense à Buena Vista Social Club, non, ça, rien ne pourra l'effacer.
La culture cubaine, non, je pense que rien ne pourra l'effacer, parce qu'elle a infusé, elle est à la fois le produit de beaucoup d'autres cultures du monde, et elle a refait jaillir sur le monde entier des choses que vous évoquez, qui sont ancrées un peu partout. Donc l'esprit cubain, la culture cubaine, elle continuera d'exister. La question, c'est de savoir si ce pays va devenir un protectorat ou conserver sa souveraineté. C'est ça qui est la question posée aujourd'hui.
À suivre.